Marco Valdo ou les saisons en ville par Italo Calvino, troisième cassette, première piste, page 119, suite et fin du chapitre 15, la pluie et les feuilles. Depuis qu'il avait quitté le sous-sol pour cette mansarde, la vie de Marco Valdo et des siens s'était beaucoup améliorée. Mais le fait d'habiter sous les toits avait aussi ses inconvénients. Le plafond, par exemple, laissait filtrer des gouttes d'eau. Elle tombait en 4 ou 5 points bien précis, à intervalles réguliers, et Marco Valdo devait mettre dessous des bassines ou des casseroles. Les nuits de pluie, quand tout le monde était couché, on entendait le tic-tic-tic des différentes gouttes, et cela, qui faisait froid dans le dos, présageait des rhumatismes. Cette nuit-là, au contraire, chaque fois que s'éveillant d'un sommeil inquiet, Marco Valdo tendait l'oreille, le tic-tic-tic semblait une musique joyeuse et lui disait que la pluie, continuant de tomber doucement, nourrissait la plante, poussait la lymphe dans ses frêles pédoncules, gonflait les feuilles comme des voiles. Demain, se disait-il, quand je me mettrai à la fenêtre, elle aura grandi. Pourtant, le lendemain matin, quand il ouvrit la fenêtre, il n'en crut pas ses yeux. La plante bouchait maintenant la moitié de la fenêtre. Les feuilles avaient au moins doublé, n'étaient plus pendantes et flasques, mais bien dressées et pointues comme des épées. Il descendit l'escalier, serrant le pot contre sa poitrine, l'attacha au porte-bagages et courut à la SBAV. La pluie avait cessé, mais le temps demeurait incertain. Marco Valdo n'était pas encore descendu de sa selle que quelques gouttes se remirent à tomber. « Vu que ça lui fait tant de bien, je vais la laisser encore dans la cour, » se dit-il. Au magasin, il allait de temps en temps jeter un coup d'œil par la petite fenêtre qui donnait sur la cour. Cette façon de faire, qu'il distrayait de son travail, ne plaisait pas au chef magasinier. « Ben, qu'est-ce que t'as aujourd'hui à regarder toujours dehors ?»«
Elle pousse. Venez voir aussi M. Villigelmo. »
Et Marco Valdo lui faisait signe de la main, parlant presque à voix basse, comme si la plante ne dût point s'apercevoir de son manège.
« Regardez comme elle pousse. Hein, qu'elle a grandi ?»«
Ouais, elle a pas mal poussé, » admit le chef.
Et pour Marco Valdo, ce fut là une de ces satisfactions comme la vie de travail en réserve bien rarement au personnel. C'était samedi. On s'arrêtait à 1 heure et on ne reprenait le travail que le lundi matin. Marco Valdo aurait voulu remporter la plante avec lui, mais comme il ne pleuvait plus, il ne savait quelle excuse trouver. Le ciel pourtant était toujours menaçant. Des nuages noirs, des cumulus se voyaient ça et là. Marco Valdo alla trouver son chef qui, passionné de météo, avait un baromètre accroché au-dessus de sa table.
« Comment s'annonce le temps, Monsieur Villigelmo ?»«
Mauvais, toujours mauvais, » dit celui-ci. « Du reste, s'il ne pleut pas par ici, il pleut dans mon quartier. Je viens de téléphoner à ma femme. »
Alors, se hâta de proposer Marco Valdo, je vais emmener la plante faire un tour là où il pleut.
Aussitôt dit, aussitôt fait, il réinstalla la plante sur le porte-bagages de son cyclo. De temps en temps, se retournant, il voyait que la plante avait encore un peu grandi. Elle était aussi haute qu'un taxi, que les camionnettes, que les trams. Et ses feuilles étaient toujours plus larges, d'où la pluie tombait sur son capuchon comme d'une douche. À présent, c'était un arbre à deux roues qui courait par la ville, déconcertant les agents de police, les automobilistes, les piétons. Et les nuages, pour leur part, couraient sur les routes du vent, arrosant de pluie un quartier, puis l'abandonnant. Les passants tendaient alors la main et refermaient leur parapluie, cependant que Marco Valdo, courbé sur son guidon, emmitouflé dans son capuchon d'où seul son nez dépassait, son moteur pétaradant à plein gaz, s'efforçait de maintenir la plante dans la trajectoire des gouttes d'eau, comme si la traînée de pluie que les nuages tiraient derrière eux était accrochée aux feuilles et qu'ainsi tout courait, tiré par une force unique, vent, nuages, pluie, plante, roue. Le lundi, Marco Valdo se présenta devant M. Villigelmo, les mains vides.
« Et la plante ?» demanda aussitôt le chef magasinier.
« Je l'ai laissée dehors. Venez voir. »«
Où ça ?» dit M. Villigelmo.
« Je la vois pas. »«
Ben, c'est celle-là. Elle a un peu poussé. »
Et il désigna un arbre qui arrivait à la hauteur du second étage. Il n'était plus planté dans son vieux pot, mais bien dans une espèce de petit tonneau, et Marco Valdo avait été obligé de remplacer son cyclomoteur par un scooter de livraison. « Et maintenant ?» hurla furieux le chef magasinier. « Comment on va la remettre dans l'entrée? Elle passe plus sous la porte !» Marco Valdo, perplexe, haussa les épaules. « Ah, il n'y a qu'une solution, » dit M. Villigelmo. « La rendre pépiniériste contre une autre de dimension plus normale. » Marco Valdo renfourcha sa selle. « J'y vais !» Il recommença de courir par la ville. L'arbre encombrait de son feuillage le milieu des rues. Les agents de police, s'inquiétant pour la circulation, l'arrêtaient à chaque carrefour. Puis, quand Marco Valdo leur expliquait qu'il rapportait la plante au pépiniériste pour s'en débarrasser, ils le laissaient repartir. Mais tourne, 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 Marco Valdo ne se décidait pas à prendre le chemin de la pépinière. Le cœur lui manquait à l'idée de devoir se séparer de sa plante, de son arbre, de son enfant, maintenant qu'il l'avait si bien aidé à grandir. Il lui semblait qu'il n'avait jamais eu de sa vie autant de satisfaction qu'avec cette plante-là. Si bien qu'il continua à faire la navette des rues aux places, des places au quai du fleuve et au pont. Une végétation de forêt tropicale lui couvrait maintenant la tête, les épaules, les bras, au point de le faire disparaître sous elle. Et toutes ses feuilles, tous leurs pédoncules, et même la tige de la plante, qui était demeurée fort mince, frémissaient, frémissaient, comme agitées d'un tremblement continu, soit que des rafales de pluie tombassent sur eux, soit que les gouttes se fissent plus rares, soit qu'elles s'interrompissent complètement. Enfin, la pluie cessa tout de bon. Le crépuscule était proche. Au fond des rues, entre les maisons, apparut une vague lueur d'arc-en-ciel. La plante, après l'impétueux effort de croissance qu'il avait soutenu tant que durait la pluie, se trouva comme épuisée. Marco Valdo, poursuivant sa course sans but, ne remarqua pas que derrière lui, les feuilles passaient une à une du vert soutenu au jaune, un jaune d'or. Depuis un moment déjà, et sans que Marco Valdo s'en fût aperçu, un cortège de scooters, d'autos, de vélos et de gosses s'était mis à suivre l'arbre qui traversait la ville. Tous criaient « Un baobab ! Un baobab !» et regardaient jaunir les feuilles avec de grands « Oh !» admiratifs. Quand une feuille se détachait et s'envolait, de nombreuses mains se tendaient pour l'attraper au vol. Le vent se leva, les feuilles d'or se détachaient en rafales, se mettaient à voltiger. Marco Valdo croyait encore avoir l'arbre verdoyant et feuillu derrière lui, quand brusquement, peut-être bien parce qu'il ne se sentait plus abrité du vent, il se retourna. L'arbre n'était plus là, seulement une tige fluette d'où partaient comme des rayons des pédoncules dénudés avec encore une dernière feuille jaune à son sommet. Dans la lumière de l'arc-en-ciel, tout le reste paraissait noir. Les gens sur le trottoir, les façades des maisons qui faisaient la haie, et sur ce noir, à hauteur d'homme, les feuilles tournoyaient, tournoyaient brillantes par centaines, et des mains rouges et roses se levaient dans l'ombre par centaines pour les attraper. Et le vent soulevait les feuilles d'or, les poussant là-bas, tout au fond, vers l'arc-en-ciel, en même temps que les mains et les cris. Ce faisant, il détacha aussi la dernière feuille, qui de jaune devint orange, puis rouge, violette, bleu ciel, verte et de nouveau jaune. Après quoi, elle disparut. Hiver. Chapitre 16. Marco Valdo au supermarché. À 6 heures du soir, la ville tombait aux mains des consommateurs. Durant toute la journée, le gros travail de la population active était la production. Elle produisait des biens de consommation. À une heure donnée, comme si on avait abaissé un interrupteur, tout le monde laissait tomber la production et, hop, se ruait sur la consommation. Chaque jour, les vitrines illuminées avaient à peine le temps de s'épanouir en de nouveaux étalages, les rouges saucissons de pendillés, les piles d'assiettes de porcelaine de s'élever jusqu'au plafond, les coupons de tissu de déployer leurs draperies comme des queues de paon, que déjà la foule des consommateurs faisait irruption pour démanteler, grignoter, palper, faire main basse. Une queue interminable serpentait sur tous les trottoirs, sous toutes les arcades des rues, et s'engouffrant à travers les portes vitrées des magasins, se pressait autour de tous les comptoirs, poussée par les coups de coude dans les côtes de chacun, comme par d'incessants coups de piston. « Consommez !» Et il tripotait la marchandise, la remettait en place, la reprenait, se l'arrachait des mains. « Consommez !» Et ils obligeaient les vendeuses palichonnes à étaler des sous-vêtements sur le comptoir. « Consommez !» Et les plottes de ficelles de couleur tournaient comme des toupies, les feuilles de papier à fleurs battaient des ailes, en enveloppant les achats pour en faire de petits paquets, puis en les groupant des paquets moyens, et avec ceux-ci de gros paquets, chacun ficelé avec un joli nœud. Et petits paquets, paquets moyens, gros paquets, portefeuilles, sacs à main tourbillonnaient autour de la caisse en un embouteillage qui n'en finissait plus. Les mains fouillaient dans les sacs pour y chercher les porte-monnaies et les doigts fouillaient dans les porte-monnaies pour y chercher de la monnaie. Dans une forêt de jambes inconnues et de pentes par-dessus et de manteaux, des enfants égarés dont on avait lâché la main pleuraient. Un de ces soirs-là, Marco Valdo promenait sa famille. N'ayant pas d'argent, leur plaisir était de regarder les autres faire des achats. D'autant que l'argent, plus il en circule, plus ceux qui en sont dépourvus peuvent espérer en avoir. Tôt ou tard, se disent-ils, il finira bien par en tomber aussi un peu dans notre poche. Pour Marco Valdo, son salaire, étant donné qu'il était aussi maigre que sa famille était nombreuse et qu'il y avait des traites et des dettes à payer, son salaire fondait aussitôt touché. De toute façon, tout cela était bien plaisant à regarder, surtout si l'on faisait un tour au supermarché. Le supermarché était en libre service. Il y avait des chariots, pareils à des paniers à roulettes, que chaque client poussait devant lui et remplissait avec toutes sortes de bonnes choses. Comme les autres, Marco Valdo prit un chariot en entrant, sa femme fit de même, et aussi ses quatre gosses qui en prirent un chacun. Et se suivant à la queue leu-leu, poussant leur chariot devant eux entre les rayons et les comptoirs, croulant sous les montagnes de denrées alimentaires, ils se montraient les saucissons et les fromages, les nommaient comme s'ils reconnaissaient dans la foule des visages d'amis ou pour le moins de connaissances. « Papa, disaient à chaque instant les gosses, on peut prendre ça ?»«
Non, on n'y touche pas, c'est défendu !» répondait Marco Valdo, se souvenant que la caissière les attendait en fin de parcours pour le paiement.
« Pourquoi alors que cette dame-là, elle en prend ?» insistaient les gosses, en voyant toutes ces braves femmes qui entraient seulement pour acheter un céleri et deux carottes, ne savaient pas résister devant une pyramide de pots et de boîtes et toc, 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 d'un geste mi-machinal, mi-résigné, faisaient tomber et tambouriner dans le chariot des boîtes de tomates pelées, de pêches au sirop, des anchois à l'huile. Bref, si votre chariot est vide et que les autres sont pleins, vous pouvez tenir jusqu'à un certain point. Puis l'envie vous submerge et les regrets, et vous ne résistez plus. Alors Marco Valdo, après avoir recommandé à sa femme et aux gosses de ne toucher à rien, tourna rapidement au coin d'une allée, disparut aux yeux de sa famille, et prenant sur un rayon une boîte de dattes, la déposa dans son chariot. Il voulait seulement s'offrir le plaisir de la balader durant 10 minutes, de montrer lui aussi ses achats comme les autres, puis la remettre là où il l'avait prise. Cette boîte de dattes, et aussi une bouteille rouge de sauce piquante, un paquet de café et des spaghettis sous cellophane bleu. Marco Valdo était sûr qu'en opérant avec adresse, il pouvait au moins pour un quart d'heure éprouver le plaisir de celui qui sait choisir le produit le meilleur sans devoir payer un sou. Mais gare, si les gosses le voyaient, ils se seraient mis tout de suite à l'imiter et qui sait quelle pagaille ça aurait fait. Marco Valdo cherchait à les semer, courant en zigzag d'un rayon à l'autre, tantôt suivant des boniches affairées, tantôt des dames en fourrure. Et chaque fois que l'une ou l'autre tendait la main pour prendre un potiron jaune et odorant ou une boîte de crème de gruyère, il faisait de même. Les haut-parleurs diffusaient des musiquettes gaies. Les clients marchaient ou s'arrêtaient en suivant le rythme et au moment voulu tendaient le bras, prenaient quelque chose et le déposaient dans leur chariot, le tout au son de la musique. Maintenant, le chariot de Marco Valdo était bourré de marchandises. Ses pas le portaient vers des rayons moins fréquentés. Il y avait là des produits au nom de moins en moins déchiffrables, dans des boîtes avec des dessins dont on ne comprenait pas très bien s'il voulait dire qu'il s'agissait d'engrais pour la laitue, ou de semences de laitue, ou de laitue proprement dite, ou de poison pour les chenilles de la laitue, ou de pâté pour attirer les oiseaux qui mangent ces chenilles, ou bien d'assaisonnement pour la salade, ou d'épices pour les 10 oiseaux en brochette. De toute façon, Marco Valdo en prit 2 ou 3 boîtes. Il progressait maintenant entre 2 hautes haies de rayons. Brusquement, l'allée s'interrompait, et il y avait devant lui un long espace vide et désert, éclairé par des tubes au néon qui faisaient étinceler le carrelage. Marco Valdo était là, tout seul, avec son chariot de marchandises. Et au fond de cet espace vide, il y avait la sortie et la caisse. Son premier mouvement fut de foncer tête baissée en poussant son chariot devant lui comme un char d'assaut et de s'échapper du supermarché avec son butin avant que la caissière pût donner l'alarme. Mais au même moment, un chariot bien plus chargé que le sien déboucha d'une allée voisine et c'était sa femme Domitilla qui le poussait. Un autre encore déboucha d'un autre côté et Filippetto le poussait de toutes ses forces. C'était là un endroit où aboutissaient les allées de nombreux rayons et de plusieurs d'entre elles surgissaient l'un ou l'autre des gosses de Marco Valdo, tous poussant des chariots aussi chargés que des navires de commerce. Toute la famille avait eu la même idée, et maintenant, en se retrouvant, toute la famille s'apercevait qu'elle avait rassemblé un échantillonnage complet des disponibilités du supermarché. « Papa, on est riche alors ?» demanda Michelino. « On va avoir de quoi manger pour un an, dit. »« Fichez le camp, vite, éloignez-vous de la caisse !» s'exclama Marco Valdo en faisant demi-tour et en se cachant, lui et ses denrées, derrière les rayons. Puis il fonça, plié en deux comme sous un tir ennemi, pour s'aller perdre dans les rayons. Un grondement s'entendait derrière lui. Il se retourna et vit toute sa famille qui, poussant ses chariots comme les wagons d'un train, galopait sur ses talons. « Ils vont sûrement nous dire qu'il y en a pour 1 million !» Le supermarché était grand et aussi enchevêtré qu'un labyrinthe. On pouvait y tourner durant des heures et des heures. Avec toutes ces denrées à leur disposition, Marco Valdo et sa famille auraient pu y passer tout l'hiver sans sortir. Mais déjà, les haut-parleurs avaient interrompu leur musiquette et disaient « Attention, le magasin ferme dans un quart d'heure. Vous êtes priés de vous rendre rapidement à la caisse. » Il était temps de se débarrasser du chargement, maintenant ou jamais. Au rappel des haut-parleurs, la foule des clients avait été prise d'une folie frénétique, comme s'il s'agissait des dernières minutes du dernier supermarché du monde tout entier. Une précipitation dont on ne comprenait pas si elle visait à prendre tout ce qui se trouvait là, ou au contraire à tout laisser. Bref, une bousculade inouïe autour des comptoirs et des rayons, et dont Marco Valdo, Domitilla et les gosses profitaient pour remettre la marchandise en place, ou la faire glisser dans les chariots d'autres personnes. Tout cela se faisait un peu au petit bonheur la chance. Le papier tumouche au rayon des jambons, un chou pommé avec les gâteaux. Une dame poussait une voiture d'enfant où se trouvait un nouveau-né. Ils la prirent pour un chariot et ils fourrèrent une fiasque de Barbera. C'est un vin. Se séparer de toutes ces bonnes choses, sans même les avoir goûtées, leur fendait le cœur. De sorte que si au moment où ils abandonnaient un tube de mayonnaise, un régime de banane leur tombait sous la main, ils le prenaient. Ou bien un poulet rôti au lieu d'une grande brosse en nylon. Avec ce système-là, plus leur chariot se vidait, plus ils recommençaient à les remplir. La famille, avec ses provisions, montait et descendait par les escalators, et à chaque étage, de quelque côté qu'elle se tournât, elle se trouvait devant des passages obligatoires, au bout desquels une caissière pointait une caisse comptable crépitante comme une mitrailleuse contre tous ceux qui faisaient mine de sortir. Le va-et-vient de Marco Valdo et de sa famille ressemblait de plus en plus à celui de bêtes en cage ou de prisonniers enfermés dans une étincelante prison aux murs faits de panneaux de couleurs. En un point, les panneaux étaient démontés et il y avait là une échelle, des marteaux et des outils de charpentier et de maçon. On travaillait apparemment à agrandir le supermarché. La journée finie, les ouvriers s'en étaient allés, laissant tout sur place. Marco Valdo, poussant ses provisions devant lui, passa par le trou du mur. De l'autre côté, c'était le noir. Il avança et sa famille suivit avec les chariots. Le roux caoutchouté tressautait sur un sol dépavé, parfois sablonneux, puis sur un chemin de planches disjointes. Marco Valdo avançait en équilibre sur l'une d'elles, les autres suivaient toujours. Brusquement, ils virent devant eux, derrière eux, au-dessus d'eux et sous eux, d'innombrables lumières disséminées dans le lointain et tout autour, le vide. Il se trouvait sur la plateforme d'un échafaudage de bois à la hauteur d'une maison de 7 étages. La ville s'ouvrait sous eux dans un étincellement de fenêtres éclairées, d'enseignes lumineuses et d'éclairs électriques des trams. Plus haut, un ciel scintillant d'étoiles et les petites lumières rouges des antennes des stations de radio. L'échafaudage tremblait sous le poids de toute cette marchandise en équilibre instable, tout là-haut. « J'ai peur !» dit Michelino. Une ombre s'approcha, sortant du noir. C'était une énorme bouche sans dents, qui s'ouvrait, se penchant au bout d'un long cou métallique, une grue. Elle s'abaissait vers eux, s'arrêtait à leur hauteur, sa mâchoire inférieure contre le bord de l'échafaudage. Marco Valdo pencha le chariot, fit tomber la marchandise dans la gueule de fer et passa. Domitila fit de même. Les gosses imitèrent leurs parents. La grue referma sa gueule sur la totalité du butin du supermarché et, se redressant avec un grincement, ramena son cou en arrière, s'éloigna. En bas, s'allumaient et tournoyaient les publicités lumineuses multicolores qui invitaient à acheter les produits en vente au grand supermarché. Printemps, chapitre 17, fumée, vent et bulles de savon. Le facteur déposait chaque jour un peu de courrier dans les boîtes aux lettres des locataires. Seule celle de Marco Valdo demeurait toujours vide, parce que personne ne lui écrivait jamais. Et s'il n'y avait pas eu de temps en temps une sommation d'avoir à payer le gaz ou l'électricité, sa boîte n'aurait vraiment servi à rien. « Papa, il y a une lettre !» crie Michelino. « Penses-tu ? » répond Marco Valdo, « c'est encore une réclame !» De toutes les boîtes aux lettres, pointait un bon réclame jaune et bleu plié en deux. On y lisait que pour faire une bonne lessive, rien ne valait blanc soleil et que sur présentation du dit bon jaune et bleu, on en obtiendrait un petit échantillon gratuit. Comme ces bons étaient longs et étroits, quelques-uns dépassaient des boîtes aux lettres. D'autres étaient par terre, roulés en boule ou seulement un peu froissés parce que de nombreux locataires, en ouvrant leurs boîtes, jetait aussitôt toute cette paperasse publicitaire qui l'encombrait. En en ramassant un peu par terre, en en tirant un peu par les fentes des boîtes, et même en en pêchant dans celle-ci avec un fil de fer, Filippetto, Pietruccio et Michelino commencèrent à collectionner les bons blancs soleils. « C'est moi qui en ai le plus !»« Non, compte-les, je parie que j'en ai plus que toi !» La campagne publicitaire de blancs soleils avait touché tout le quartier, maison par maison. Et maison par maison, les trois frères s'occupèrent ainsi du quartier, raflant tous les bons. Une concierge les chassa. « Sacré gosse ! » cria-t-elle. « Qu'est-ce que vous venez encore voler ici ? Je vais téléphoner à la police, moi !» Une autre, au contraire, fut contente de leur voir faire un peu de nettoyage en débarrassant son entrée de toute cette paperasse qu'on y déposait chaque jour. Le soir, les deux pauvres petites pièces de Marco Valdo étaient toutes jaunes et bleues, des bons de blanc soleil. Les enfants les comptaient, les recomptaient et en faisaient des liasses pareilles à celles que les caissiers des banques font avec les billets. « Papa, il y en a tellement qu'on pourrait peut-être ouvrir une laverie, non ?» demandait Filippetto. À cette époque, l'industrie des détersifs était en pleine ébullition. La campagne publicitaire de blanc soleil avait inquiété les marques concurrentes et pour lancer leurs produits, celles-ci faisaient aussi distribuer des bons qu'on trouvait dans toutes les boîtes aux lettres de la ville et qui donnait droit à des échantillons gratuits toujours plus importants. Les gosses de Marco Valdo eurent alors fort à faire. Les boîtes aux lettres fleurissaient chaque matin comme les pêchers au printemps. Des bons, avec des dessins verts, roses, bleu, ciel, orangé, promettaient des lessives d'une blancheur éclatante à tous ceux, et toutes celles surtout, qui emploieraient mousse d'or ou lavelux ou saponaube ou encore clair-lin. Les collections de bons réclames des gosses s'enrichissaient constamment de nouvelles classifications. Dans le même temps, leur terrain de chasse s'agrandissait, s'étendant aux entrées d'immeubles d'autres rues. Naturellement, de telles manœuvres ne pouvaient pas passer inaperçues. Les gamins du voisinage ne tardèrent pas à comprendre à quelle sorte de chasse Michelino et ses frères se livraient toute la journée. Et ces bons réclames, auxquels aucun d'eux n'avait jamais fait attention, devinrent quelque chose de très convoité. Des rivalités éclatèrent entre les différentes bandes de gamins parce que les bons étaient ramassés dans tel secteur plutôt que dans tel autre. Cela donna lieu à des contestations et à des bagarres. Puis, à la suite d'une série d'échanges et de négociations, on finit par se mettre d'accord. Un ramassage organisé était plus rentable qu'une récolte anarchique. Et la chasse aux bons réclames devint si méthodique que dès que le petit type de Sanoflore ou de Reinsvitt faisait la tournée des entrées d'immeubles, son itinéraire était épié, suivi pas à pas, et les bons et les échantillons récupérés aussitôt par les gosses. Naturellement, les chefs de ces expéditions étaient toujours Filippetto, Pietruccio et Michelino, parce que c'était eux qui avaient eu la première idée. Ils parvinrent même à convaincre les autres gamins que les bons réclames appartenaient à tous et qu'il convenait de les conserver tous ensemble. Comme dans une banque, précisa Pietruccio.
Est-ce qu'on est patron d'une laverie ou d'une banque ? Demanda Michelino.
Qu'est-ce que ça peut faire ? On est millionnaire ! Les gosses étaient si excités qu'ils n'en dormaient plus et faisaient des projets d'avenir.
Il suffira de ramasser tous les échantillons et on aura un énorme stock de détersif.
Où on le mettra ?
Faudra louer un magasin ? Pourquoi pas un bateau ?
La publicité est saisonnière, tout comme les fruits et les fleurs. Au bout de quelques semaines, la saison des détersifs prit fin. Et il n'y eut plus dans les boîtes aux lettres que de la réclame pour les coricides.
On pourrait peut-être ramasser cela aussi, suggéra quelqu'un.
Mais l'idée prévalut qu'il valait mieux s'occuper immédiatement de tirer le maximum de profit des bons réclames de détersifs accumulés. Il fallait d'abord se rendre chez les commerçants indiqués et se faire remettre un échantillon pour chacun des bons. Mais cette seconde partie de leur programme, on ne peut plus simple, leur prit beaucoup plus de temps et se révéla infiniment plus compliquée que la première. Les opérations s'effectuaient en ordre dispersé, un gamin à la fois chez un commerçant à la fois. On pouvait présenter trois ou quatre bons ensemble à la condition qu'ils ne fussent pas de la même marque, et si les vendeurs ne voulaient vous donner qu'un échantillon d'une seule marque et rien d'autre, il fallait leur dire « Ma mère, elle veut tous les essayer pour voir celui qui est le meilleur ». Les choses se compliquaient encore quand, comme cela arrivait chez beaucoup de commerçants, on ne remettait l'échantillon gratuit qu'aux seuls acheteurs. Jamais les mères n'avaient vu leurs enfants aussi désireux d'aller faire les commissions chez l'épicier ou le marchand de couleurs. Bref, la transformation des bons en marchandises traînait en longueur et occasionnait des dépenses supplémentaires, car les achats faits avec l'argent des mères étaient rares et les épiciers et marchands de couleurs fort nombreux. Pour se procurer des fonds, il n'était point d'autre solution que de passer tout de suite à la troisième partie du programme, c'est-à-dire à la vente du détersif déjà recueilli. Ils décidèrent d'aller le vendre à des particuliers en sonnant à leur porte. « Bonjour madame, ça vous intéresse ? Lessive parfaite !» Et ils tendaient la boîte de rince-vite ou le sachet de blanc soleil. « Oui, oui, donnez, merci !» disait quelqu'une qui sitôt prit l'échantillon leur claquait la porte au nez. « Comment ? Vous payez pas ?» s'exclamaient les gamins en donnant de grands coups de poing dans la porte. « Payez, c'est donc pas gratuit. Allez, fichez-moi le camp, les gosses !» Précisément, ces jours-là, des distributeurs passaient d'immeuble en immeuble pour y déposer des échantillons gratuits de différentes marques. C'était une nouvelle offensive publicitaire déclenchée par l'ensemble des fabricants de détersifs, vu que la campagne des bons réclames s'était avérée plutôt décevante. Chez Marco Valdo, on se serait cru dans une épicerie ou chez un marchand de couleurs, tellement ça regorgeait de sanoflore, de clairlin, de lavelux. Mais on ne pouvait guère espérer tirer un sou de tout cela. Ça ne se vendait pas, ça se donnait pour rien comme l'eau des fontaines. Bien entendu, les distributeurs de détersifs ne tardèrent pas à entendre parler de gamins qui, suivant le même itinéraire qu'eux, allaient d'immeuble en immeuble pour y vendre ces mêmes produits qu'eux-mêmes offraient gratis. Dans les milieux commerciaux, les vagues de pessimisme sont fréquentes. On commença de dire qu'à eux qui leur en faisaient cadeau, les gens répondaient qu'ils n'avaient que faire des détersifs alors qu'ils en achetaient à ceux qui les leur faisaient payer. Les bureaux d'études furent alertés, on consulta des spécialistes du marketing et l'on aboutit à cette conclusion qu'une concurrence aussi déloyale ne pouvait être que le fait de gredins qui avaient volé les produits en question. La police, forte d'une plainte contre X, commença de quadriller le quartier pour mettre la main sur les voleurs et découvrir la cachette de leur vol. Dès cet instant, le détersif devint aussi dangereux que de la dynamite. Marco Valdo prit peur. « Je ne veux même plus un gramme de toutes ces poudres chez moi !» Mais on ne savait pas où mettre tout cela. Personne n'en voulait chez soi. Finalement, il fut décidé que les gosses iraient jeter tout le stock dans le fleuve. C'était un peu avant l'aube. Chargée de boîtes de lavelux ou de saponaube, une charrette à bras déboucha sur le pont, tirée par Pietruccio et poussée par ses frères. Puis une autre charrette, toute semblable, suivie, tirée par Hugo, le fils de la concierge de la maison d'en face, puis d'autres encore. Ils s'arrêtèrent au milieu du pont, laissèrent passer un cycliste qui se retourna pour regarder, puis hop, Michelino commença à lancer les boîtes dans le fleuve. « Connard, tu vois pas que ça flotte ?» cria Filippetto. « C'est la poudre qu'il faut jeter dans l'eau, c'est pas les boîtes !» Et des boîtes ouvertes une à une, s'échappa un mince nuage blanc que le courant paraissait absorber, qui refaisait surface en un bouillonnement de toutes petites bulles, puis qui semblait tomber au fond. « Parfait !» Et les gosses continuaient à déverser, par dizaines de mille, des grammes et des grammes de détersif. « Attention là-bas !» cria Michelino en désignant un point en aval. Après le pont, il y avait une dénivellation et le fleuve faisait un saut. Là où le courant amorçait sa descente, les bulles ne se voyaient plus. Elles réapparaissaient après le saut, mais devenues très grosses, s'enflant, se poussant d'en bas l'une l'autre, pareilles à un énorme bain de savon qui s'élevait, grossissait, grossissait, et qui était déjà aussi haut que le saut du fleuve, à une mousse blanchissante, semblable à celle du blaireau d'un coiffeur. On aurait dit que tous ces détersifs de marques concurrentes s'étaient fait un point d'honneur de montrer comme ils moussaient bien. L'eau savonneuse débordait sur les quais, et les pêcheurs, qui dès les premières lueurs du jour se trouvaient déjà là avec des bottes imperméables, remontaient leurs lignes et filaient en vitesse. Un souffle de brise se leva dans le ciel du matin. Une grappe de bulles se détacha de la surface de l'eau et légère, légère s'envola. L'aube pointait et les bulles se coloraient de rose. « Oh !» s'exclamèrent les gosses en les voyant passer au-dessus de leur tête. Les bulles volaient au-dessus de la ville en suivant les rails invisibles du vent. Elles s'engageaient dans les rues à la hauteur des toits en évitant toujours d'en effleurer les arêtes et les gouttières. À présent, la grappe s'était défaite. L'une après l'autre, les bulles s'étaient mises à voler pour leur propre compte, suivant chacune un chemin différent, tant pour l'altitude que pour la vitesse et l'itinéraire. Elles erraient. On aurait dit qu'elles s'étaient multipliées, et c'était vrai, parce que le fleuve continuait à déborder de mousse comme un pot de lait sur le feu. Et le vent la soulevait, écumeuse, voltigeante, par paquets qui s'allongeaient, se transformaient en guirlandes irisées. Les rayons obliques du soleil ayant franchi le faîte des toits avaient désormais pris possession de la ville et du fleuve, en guirlandes irisées qui envahissaient le ciel au-dessus des fils et des antennes. Des ombres noires d'ouvriers couraient aux usines sur des cyclomoteurs pétaradants, et l'essaim de bulles vert, rouge, bleu, planant au-dessus de leur tête, les suivaient comme si chacun d'eux traînait derrière lui une grappe de ballonnets attachée par un long fil au guidon de sa machine. Ce fut d'un trame qu'on remarqua la chose. « Regardez ! Hé, regardez ! Qu'est-ce qu'il y a donc là-haut ? » Le conducteur arrêta le trame et descendit. Tous les voyageurs en firent autant et se mirent à regarder le ciel. Les vélos, les cyclos, les autos, les marchands de journaux, les boulangers, tous les passants matinaux, et parmi eux Marco Valdo qui se rendait à son travail, s'arrêtèrent à leur tour, levant tous le nez pour suivre le vol des bulles de savon. « Ça serait pas quelque chose d'atomique des fois ?» demanda une vieille dame. Et la peur s'empara de la foule, et ceux qui voyaient une bulle leur tomber dessus se sauvaient en criant « Elle est radioactive !» Mais les bulles continuaient à voltiger, irisées, fragiles, et légères, si légères, qu'il suffisait d'un souffle, pif, et il n'y avait plus rien. Bientôt la crainte disparut tout comme elle était née. « Radioactive, vous rigolez, c'est du savon, des bulles de savon comme celles des gosses !» Et une gaieté frénétique les submergea. « Regardez celle-là, et celle-là, et celle-là » En fait, ils voyaient voltiger d'énormes bulles de dimensions incroyables et qui, s'effleurant, se fondaient, devenaient doubles, triples. Et le ciel, l'étoile, les gratte-ciels, vus au travers de leur transparence, révélaient des formes et des couleurs jamais vues. Par la bouche de leur cheminée, les usines avaient commencé de cracher de la fumée noire comme chaque matin. Et les essaims de bulles se rencontraient avec les nuages de fumée, le ciel se partageant entre les courants de fumée noire et les courants de mousse irisée. Parfois, pris dans un tourbillon de vent, on aurait dit qu'ils s'affrontaient. Durant un moment, mais rien qu'un instant, il sembla que le sommet des cheminées avait été conquis par les bulles, mais très vite il se fit un tel brassage entre la fumée qui coinçait l'arc-en-ciel de mousse savonneuse et les bulles qui, elles, coinçaient une poussière de grains de suie, qu'on n'y comprenait plus rien. Jusqu'à ce que Marco Valdo, scrutant le ciel, n'y vit plus du tout de bulles, mais seulement de la fumée, de la fumée, de la fumée. Été, chapitre 18, la ville pour lui tout seul. La population aimait sa ville 11 mois sur 12, et gare à qui la touchait. les gratte-ciel, les distributeurs automatiques de cigarettes, les cinémas avec écran panoramique, tout cela constituait autant d'attraits indiscutables et permanents. Le seul citadin dont on ne pouvait pas dire avec certitude s'il éprouvait ce sentiment, c'était Marco Valdo. Primo, il était difficile de le savoir vu qu'il n'était guère communicatif. Secondo, il avait si peu d'importance que de toute façon, c'était pareil. À un certain moment de l'année, commençait le mois d'août. Alors, on assistait à un changement général des sentiments. Personne n'aimait plus la ville. Ces mêmes gratte-ciel, ces passages souterrains dorés, la veille encore, on les trouvait antipathiques et irritants. La population ne désirait plus que partir au plus vite. Et comme ça, à force de remplir les trains et d'embouteiller les autoroutes, le 15 du mois, tous étaient vraiment partis. Tous, sauf un seul, Marco Valdo était l'unique citadin à ne pas quitter la ville. Il alla faire un tour dans le centre le matin. De larges et interminables rues s'ouvraient devant lui, désertes et vides de voitures. Les façades des maisons, de la haie grise des rideaux de fer baissés aux innombrables lattes des persiennes, étaient closes comme des forteresses. Durant toute l'année, Marco Valdo avait rêvé de pouvoir utiliser les rues en tant que rues, c'est-à-dire en marchant en leur milieu. Maintenant, il pouvait le faire, et même passer au feu rouge, traverser en diagonale et s'arrêter au beau milieu des places. Mais il comprit que le plaisir, ce n'était pas tant de faire ces choses insolites que de tout voir différemment. Les rues comme des creux de vallée ou des lits de fleuves à sec, les maisons comme des chaînes de montagnes escarpées ou comme les parois d'une falaise. Certes, qu'il manquât quelque chose, cela sautait aux yeux. Mais ce n'étaient pas les files de voitures en stationnement, ou l'embouteillage au carrefour, ou la foule se pressant à l'entrée des grands magasins, ou le petit groupe de personnes attendant sagement le tram à l'arrêt. Non, ce qui manquait pour combler les espaces vides et se faire gondoler les surfaces planes, c'était peut-être une inondation due à l'éclatement des conduites d'eau, ou la prolifération des racines des arbres de l'avenue qui décèleraient les pavés. Marco Valdo regardait attentivement autour de lui, cherchant l'affleurement d'une ville différente, d'une ville d'écorce, d'écailles, de grumeaux, de nervures, sous la ville de peinture et d'asphalte, de verre et de plâtre. Et voici que le pâté de maison devant lequel il passait chaque jour se révélait être en réalité un amas de pierrailles d'un grès poreux et gris. La palissade d'un chantier était faite des planches d'un pin encore frais avec des nœuds qui semblaient être des gemmes. Sur l'enseigne d'un gros marchand de tissus se reposait, endormi, une troupe de petits papillons blanchâtres, des mites. On aurait dit qu'à peine désertée par les hommes, la ville était tombée aux mains d'habitants cachés jusqu'à la veille et qui maintenant prenaient le dessus. La promenade de Marco Valdo suivait à peu de choses près l'itinéraire d'une procession de fourmis, puis s'envoyait détournée par le vol d'un scarabée égaré, puis elle se faisait hésitante en suivant la démarche sinueuse d'un lombric. Mais ce n'était pas seulement les insectes et les vers qui tentaient d'occuper. Marco Valdo découvrait qu'une mince couche de moisissure se formait sur le côté nord des kiosques à journaux, que les arbustes en pot devant les restaurants s'efforçaient de pousser leurs feuilles au-delà du bord ombreux du trottoir. Mais la ville existait-elle encore? Cette agglomération de matière synthétique où s'écoulaient les journées de Marco Valdo se révélait être à présent une mosaïque de pierres disparates, chacune fort différente des autres, tant à la vue qu'au toucher, tant par la dureté que par la chaleur et la consistance. Alors, oublieux de la fonction des trottoirs et des passages cloutés, Marco Valdo parcourait les rues en zigzaguant comme un papillon, quand brusquement le radiateur d'une voiture de sport lancée à 100 à l'heure passa à 1 mm de sa hanche. Moitié par peur, moitié par suite du déplacement d'air, Marco Valdo fit un grand bond, puis retomba sur ses pieds, hébété. La voiture freina avec un long miaulement, en faisant presque un tour sur elle-même. Des jeunes gens en bras de chemise en sortirent en trombe. « Ils vont me dérouiller, » se dit Marco Valdo, « parce que je marchais au milieu de la rue. » Ces jeunes gens brandissaient d'étranges engins. « Enfin, on l'a trouvé, c'est pas trop tôt !» disait-il en entourant Marco Valdo. « Voici donc, » dit l'un d'eux en tenant un bâtonnet argenté devant sa bouche, « l'unique citadin resté en ville le 15 août. « Excusez-moi, monsieur, voudriez-vous dire vos impressions aux téléspectateurs ?» Et il lui mit sous le nez le bâtonnet argenté. Une lumière aveuglante venait brusquement de briller. Il faisait chaud comme dans un four et Marco Valdo était sur le point de s'évanouir. On avait dirigé vers lui les projecteurs, les caméras de télévision, les micros. Il balbutia quelque chose et chaque fois qu'il avait dit trois mots, le jeune homme au micro surgissait, tournant le dit micro vers sa propre bouche. « Ah, vous voulez donc dire ?» Et il se mettait à parler durant 10 bonnes minutes. Bref, on intervieva Marco Valdo. « Et maintenant, je peux m'en aller ?»« Mais oui, bien sûr, merci beaucoup. Attendez voir, si vous n'avez rien d'autre à faire et que vous voulez gagner quelques billets de 1000, vous ne voudriez pas rester avec nous et nous donner un coup de main ?» Toute la place était sans dessus-dessous. Des camions de matériel, des appareils de prise de vue avec leur travelling, des accus, des installations électriques, lampes et projecteurs, des équipes de machinistes en salopette qui flanochaient ça et là en transpirant beaucoup. « La voilà ! Elle est arrivée ! Elle est arrivée !» Une vedette de l'écran descendit d'une voiture découverte hors série. « Allons-y les gars, on va tourner la scène de la fontaine !» Le réalisateur de l'émission « Folie du 15 août » commença de donner des ordres pour la prise du plongeon de la fameuse vedette dans la principale fontaine de la ville. Le manœuvre Marco Valdo avait été chargé de placer et de déplacer un énorme projecteur dont le pied pesait très lourd. La place tout entière bourdonnait à présent de bruits d'appareils, du grésillement d'élan, résonnait de coups de marteau sur les praticables métalliques, d'ordres hurlés. Aux yeux de Marco Valdo, aveuglé et étourdi, la ville de tous les jours avait repris la place de l'autre qu'il n'avait fait qu'entrevoir durant un moment, ou peut-être seulement rêver. Automne, chapitre 19, le jardin des chats obstinés. La ville des chats et la ville des hommes sont l'une dans l'autre, mais ce n'est pas la même ville. Peu de chats se souviennent encore du temps où il n'y avait pas de différence. Les rues et les places des hommes étaient aussi les rues et les places des chats, et les pelouses, et les cours, et les balcons, et les fontaines. On vivait dans un espace vaste et varié. Mais à présent, et depuis plusieurs générations, les félins domestiques sont prisonniers d'une ville inhabitable. Les rues sont constamment en proie au trafic mortel des voitures écraseuses de chats. Sur chaque mètre carré de terrain, là où se voyait un jardin ou un terrain vague, ou des restes de démolition, se dressent aujourd'hui des immeubles en copropriété, des HLM, des gratte-ciels flambant neufs. Chaque recoin déborde des voitures qu'on y a garées. Les cours sont cimentées l'une après l'autre et transformées en garage, ou en cinéma, ou en entrepôt, ou en atelier. Et là où s'étendait comme un haut plateau onduleux de toits bas, de cimaises, de terrasses, de réservoirs d'eau, de balcons, de lucarnes, d'avant-toits de tôle, se voit à présent la surélévation générale de toute surface vide susceptible d'être surélevée, les dénivellations intermédiaires entre le sol très bas de la rue et le sommet très élevé des duplex de grand luxe disparaissent. Le chat des nouvelles nichées cherche en vain l'itinéraire de ses pairs, le point d'appui pour le souple saut de la balustrade à la corniche, à la gouttière, pour l'agile escalade des tuiles. Mais dans cette ville verticale, dans cette ville comprimée où tous les vides tendent à se remplir et tout bloc de ciment à se fondre avec d'autres blocs de ciment, s'ouvre une espèce de contre-ville, de ville négative, faite d'espaces vides entre un mur et un autre, de distance minimale prescrite par le plan régulateur entre deux constructions, entre l'arrière et l'arrière de deux bâtisses. C'est une ville d'intervalles, de soupiraux, de conduits d'aération, de passages charretiers, de placettes intérieures, d'escaliers de sous-sol. C'est comme un réseau de canaux à sec sur une planète de plâtre et d'asphalte. Et c'est à travers ce réseau que court encore, en rasant les murs, l'ancien peuple des chats. Fin de la première piste de la troisième cassette, page 152, Marco Valdo ou les saisons en ville, par Italo Calvino.